Pour ce dernier dimanche de l'année, je vous invite à aller dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse. Non pas au tout début du début, mais à la fin du début, puisque toute fin est un recommencement. Il s'agit du chapitre 11 de la Genèse, les 9 premiers versets, l'épisode de la tour de Babel. Tout le monde parlait alors la même langue et se servait des mêmes mots. Parti de l'Est, les humains trouvèrent une large vallée en Mésopotamie et s'y installèrent. Ils se dirent les uns aux autres « Au travail, pour fabriquer des briques. Au travail pour les cuire au four. » Ils utilisèrent les briques comme pierre de construction et du goudron comme mortier. Puis ils se dirent « Au travail, pour bâtir une ville, avec une tour dont le sommet touche les cieux. Ainsi, nous rendrons notre nom célèbre et nous éviterons d'être dispersés sur toute la terre. » Le Seigneur descendit des cieux pour voir la ville et la tour que les êtres humains bâtissaient. Après quoi il se dit, « Eh bien, les voilà tous qui forment un peuple unique et parlent la même langue. » S'ils commencent ainsi, rien désormais ne les empêchera de réaliser tout ce qu'ils projettent. Allons, descendons, embrouillons leur langage et qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. Le Seigneur les dispersa de là sur l'ensemble de la terre et ils durent abandonner la construction de la ville. Voilà pourquoi celle-ci porte le nom de Babel. C'est là en effet que le Seigneur a embrouillé le langage des hommes, et c'est à partir de là qu'il a dispersé les humains sur la terre entière. Ce récit de la tour de Babel est souvent donné, vous le savez, comme texte complémentaire au moment de la Pentecôte, puisque la dispersion des langues correspond à un début d'histoire, finalement, une histoire qui trouve son issue, son dénouement plutôt, au moment de la Pentecôte, où cette profusion de langues, cette diversité qui est comme une solution à une unité dangereuse, cette diversité-là, à Pentecôte, n'est plus un problème. Éparpillement, dispersion des langues, incompréhension d'un côté, rassemblement, nouvelle communion de l'autre, sans chercher à étouffer la diversité qui est celle de la nature, de la vie, et qui va de soi. Entre ces deux textes, c'est comme si on ouvrait un peu une parenthèse sur la quête humaine du divin, parce que dans l'un comme dans l'autre, on cherche quelque chose qui nous manque ou que nous possédons, mais que nous avons oublié. Ce récit est le dernier donc de la première partie, c'est la fin du début ou le début de la fin, on ne sait plus très bien. Il est suivi par une généalogie, donc ça c'est un vrai recommencement. Et qui fait le lien entre ces 11 premiers chapitres et le cycle d'Abraham qui s'ouvre, qui va ouvrir à nouveau une nouvelle histoire. Contrairement à la généalogie du chapitre 10, l'idée nouvelle dans l'histoire de Babel est que l'humanité était un ensemble peut-être pas homogène, mais unifié. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et qui, en tout cas, parlait la même langue. Tout le monde se comprenait. Caractéristique qui paraît déranger Dieu, comme s'il était impératif de diviser pour mieux régner. Vous savez qu'il y a des théories linguistiques très nombreuses et très variées. Des gens très sérieux et assez nombreux envisagent l'existence d'une proto-langue, une langue originelle, dont les langues postérieures, comme les nôtres aujourd'hui, mais d'autres plus anciennes également, seraient les dérivés. L'idée n'est pas nouvelle, depuis Babel jusqu'à aujourd'hui, nos ancêtres auraient, il faut parler au conditionnel, hein, auraient parlé quelque chose d'assez éloigné des langues connues et auraient ensuite bougé un peu partout, sur tous les continents, sur toute la surface de la Terre. Mais il y a aussi d'autres théories qui évoquent une expansion à partir de plusieurs foyers, donc vous voyez, à partir d'un seul endroit ou de plusieurs endroits, les théories sont un peu concurrentes. et nous n'allons pas trancher tout de suite. Je sais que vous êtes déçus, il faudra attendre. Mais ce qui apparaît, c'est que, quelle que soit la théorie qui expliquerait tout ça, peu importe d'ailleurs, la pente naturelle des cultures humaines, pas simplement de leur langue, c'est bien d'aller vers une diversification, une complexité supérieure. Notre histoire est celle d'un émiettement, d'un morcellement qui se fait de manière naturelle, au gré des pérégrinations humaines sur la planète. Mais justement, si c'est leur pente naturelle, qu'est-ce que Dieu vient faire dans cette histoire et pourquoi intervient-il ? Puisque nous agissons finalement comme il nous a créés. On pourrait lui opposer cet argument. Pourquoi nous reprocher ce programme qui, dans nos cultures humaines, dans nos évolutions, dans nos histoires, fait ce qu'il a à faire finalement. Si on revient au projet que forment les hommes dans notre texte, on s'aperçoit que le bâtiment qui est envisagé est une espèce de temple-tour. Vous savez qu'à l'époque, le politico-religieux était savamment mélangé, confondu, et que cette tour qui s'élève jusqu'aux cieux est à la fois l'un et l'autre. Le bâtiment envisagé est une espèce de temple-tour fortifié qui correspond, vous le trouvez dans certaines bibles illustrées d'ailleurs, à une splendide ziggourat babylonienne. C'est en général comme ça qu'on vous illustre votre texte. C'est-à-dire un lieu de culte en même temps qu'un symbole de pouvoir. C'est à la fois l'un et l'autre. Certains commentateurs pensent qu'il s'agirait peut-être de la construction d'une nouvelle capitale impériale et que c'est des souvenirs repris, retravaillés de cet épisode connu dans le Proche-Orient ancien que les auteurs du texte auraient fait l'essentiel de leur matière. Les auteurs de ce texte, en tout cas, se seraient inspirés de cet événement étrange, mais sans vraiment nous expliquer pourquoi ces hommes tiennent à ce point à devenir célèbres ou à se faire un nom, ni nous expliquer d'ailleurs ce que cela veut dire, et si c'est une bonne chose ou pas, si c'est vraiment cela que Dieu est venu brouiller, déranger ou pas. Des hommes de renom, des hommes célèbres, ou bien ceux qui se sont fait un nom, nous les trouvons ailleurs que dans la toute fin de ce premier cycle de la Genèse. On le trouve déjà dans l'histoire de Noé, dans le déluge. Juste avant, il faut comprendre ces mots comme l'expression de leur autorité et de leur pouvoir. C'est ça, le nom, se faire un nom, puisque dans la Genèse, avec un Dieu qui crée et qui vous donne lui-même le nom que vous devez porter, prendre, se faire soi-même un nom, c'est un peu comme se mettre la couronne sur la tête lors d'un sacre. Vous voyez, c'est revendiquer une autorité pour soi. Dans le cas de la tour de Babel, il y a une tentation qui est bien identifiée, c'est celle d'assurer l'unité de l'humanité par une sorte d'impérialisme politico-religieux sur le modèle de Babylone ou de l'Empire assyrien, parce que derrière ce modèle architectural, il y a aussi le modèle des monarques, des empereurs de l'époque. C'est ce que dit au fond la phrase « faisons-nous un nom ou devenons célèbres ». Dieu intervient par une mesure de brouillage, comme s'il fallait interrompre un signal ou un processus de communication. Voilà, vous envoyez un signal, un contre-signal qui brouille, et puis plus personne ne comprend rien. Et la conséquence se fait sentir tout de suite, plus personne, c'est l'incompréhension totale, ne pas comprendre les hommes qui vivent de l'autre côté de la terre. Bon, c'est un peu normal, on ne les croise pas très souvent, donc ça n'a aucun caractère de gravité. Mais si les rencontres se multiplient, si les échanges permettent d'avoir accès à des cultures toujours plus lointaines, ce qui est notre cas depuis un bon moment d'ailleurs, ça devient vraiment compliqué. Vraiment compliqué. Plus de commerce, plus de négociations, plus de diplomatie, impossible de convaincre. Impossible de donner des ordres ou des consignes, plus rien ne fonctionne. Impossible d'avoir la moindre maîtrise des choses. Vous avez certainement éprouvé cette sensation au moins une fois dans votre vie en débarquant dans un lieu où vous ne comprenez strictement rien, vous n'entendez pas ce que les gens vous disent, vous ne comprenez rien ce que disent les panneaux dans la rue, vous circulez en voiture mais vous ne savez pas où vous allez, vous ne faites pas la différence entre les différentes directions, vous ne savez pas lire ce qui se trouve sur les murs, vous ne connaissez pas le sens des monuments qui sont devant vous, c'est l'exotisme qui prime au début. Et puis, après quelques heures ou quelques jours, c'est le sentiment d'être complètement perdu qui domine et qui est beaucoup moins agréable. Vous ressortez vos petites fiches d'anglais et vous apercevez que ça ne fonctionne pas, alors vous êtes tout seul avec votre langue maternelle, la leur, et une langue véhiculaire qui ne vous sert à rien. Bref, vous êtes complètement perdu. Les hommes de Babel, eux, ne cherchaient pas à faire du tourisme ni de la diplomatie, ils voulaient se faire un nom pour ne jamais perdre le pouvoir sur les hommes et les choses. Et quand on y parvient de façon durable, on a peut-être l'occasion, l'impression plutôt, d'avoir enfin touché le ciel. C'est peut-être cela qu'ils cherchaient. Ils avaient pourtant atteint quelque chose de positif, du moins en apparence, une certaine forme d'unité, un vieux rêve humain, et que nous partageons aussi. Le problème, c'est qu'on ne peut guère l'obtenir par une forme de pouvoir sur les autres, la séduction, l'influence, la contrainte, la menace même. Ce n'est pas la volonté de trouver des passerelles entre les hommes qui est brouillée par l'intervention de Dieu. Ici, ce sont peut-être les moyens de pression qu'il a été nécessaire d'utiliser pour l'obtenir. Dieu n'intervient pas pour jouer les rabat-joie. Ils ont enfin réussi quelque chose. Je vais vite écraser leur pâté ou leur château de sable pour se faire plaisir. Pas plus qu'il n'a puni Adam et Ève, pas plus qu'il ne condamne Caïn après le meurtre de son frère, puisqu'il lui donne un avenir. L'intervention de Dieu ici sert à placer les personnages dans le meilleur cadre possible. La réalité plutôt que les fantasmes de toute puissance, la grâce plutôt que la conscience qui accuse, pour Caïn, la volonté d'unité et d'universalité qui assume aussi sa petitesse pour ces hommes-là, qui devront non pas saccager ce qu'ils ont déjà commencé à construire, mais s'en aller. Au fond, nous sentons bien que cette tentative de faire unité a quelque chose de louable. Et c'est ce que nous cherchons, nous aussi, depuis très longtemps. Les civilisations, toutes les manières de dire « nous », d'avoir un collectif qui veut bâtir quelque chose, nous cherchons tous cette chose-là. On arrive parfois à des monstruosités de démesure et d'orgueil, c'est vrai, mais aussi, pourquoi le nier, des tentatives d'en finir avec nos divisions sempiternelles. Peut-être que remettre un peu d'unité dans tout cela n'est pas une si mauvaise chose. Pourquoi condamner ces initiatives par principe? Ici, comme dans le cas de Genèse 3, dans l'histoire d'Adam et Ève, on ne trouve pas une trace massive, aussi évidente que ça, de punition divine contre un projet humain. Une réorientation, peut-être. Plutôt une intervention divine qui modifie l'esprit de ce qui est en train de se faire. Et c'est peut-être plus profond, finalement, que d'écraser un bâtiment en cours de construction. En dehors de la fameuse tour, il ne faut pas l'oublier, il y a aussi toute une ville qui est l'une des plus habitées, l'une des plus peuplées de l'époque. Il y a une ville à bâtir et conformément à sa spiritualité de l'époque, elle place en son centre la tour qui exprime son souci de la verticalité. Elle le met en plein au milieu. La transcendance, le sacré, Dieu, celui que l'on nomme en tout cas comme cela, on le met au milieu de sa propre ville. Rien de condamnable, là encore. En fait, elle paraît plutôt exemplaire, cette ville. Ce qui reste de vertical dans nos propres villes serait-il imprégné de ce souci? Si vous vous promenez dans les grandes villes partout, pas simplement les grandes villes occidentales, mais aussi en Extrême-Orient, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique, partout, la verticalité qui a pris la place n'a plus du tout ce sens-là. nos grands immeubles, qui sont souvent des sièges sociaux de grands groupes d'assurance, de grandes banques ou de compagnies pétrolières, n'ont en général pas tellement ce souci. Ils vont plutôt creuser en bas, dans le vertical, mais en dessous de la surface du sol. Peut-être aussi, principalement, pour se faire un nom, qu'ils mettent en grand tout en haut de l'immeuble, d'ailleurs. Les hommes de Babel ont encore cette chose qu'on a peut-être perdue, le goût de la recherche de verticalité. Elle occupe le cœur même de leur ville, ça au moins, ils l'ont réussi. Mais alors, si ces gens sont si exemplaires, s'ils cultivent encore ce que nous négligeons à peu près complètement sous nos latitudes, pourquoi les éparpiller aux quatre coins du monde ? Et s'agit-il vraiment d'une punition ? Alors pourquoi les envoyer aussi loin ? La seule raison qui pousse Dieu à envoyer ses hommes partout dans le monde, c'est peut-être de leur permettre de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire ou pas faire aussi bien s'ils restent entre eux uniquement. C'est peut-être pour ça qu'ils doivent partir. Un secret a pour vocation d'être révélé à un moment ou à un autre. Il est conservé pendant un moment, mais un moment seulement. Après, il faut trouver la bonne personne pour le dire. Un secret n'est caché que dans le but d'être divulgué et quand c'est le bon moment et le bon endroit. S'il est enfermé dans un lieu seul comme dans un coffre-fort, c'est plus une mise au secret, c'est une rétention d'informations. Les hommes de Babel sont envoyés par Dieu partout dans le monde pour transmettre ce qu'ils ont peut-être bien réussi chez eux, mais qui aurait risqué de les enfermer s'ils étaient restés entre eux. Une unité autour de la présence de ce Dieu au milieu d'eux. Ça, au moins, ils l'ont réussi. Et effectivement, la tour n'est pas détruite. C'est seulement la ville qui reste inachevée parce qu'elle est devenue inutile. Elle n'est plus peuplée. Dieu approuve, au fond, cette tour, mais il ne veut pas qu'on s'installe égoïstement autour d'elle pour la garder pour soi. Ce que Dieu souhaite ici, c'est que les hommes de Babel deviennent des apôtres de la verticalité partout dans le monde. Que sont devenus ces hommes qui sont partis ? Le texte ne nous le dit pas, il ne répond pas à cette question, mais on peut penser qu'ils sont peut-être allés construire d'autres tours un peu partout ailleurs pour donner à d'autres le goût de faire la même chose. Voilà une manière, dans l'art de construire, de nous convier au fond à la même chose, toujours la même chose. La verticalité de la tour, comme le don de l'esprit à la Pentecôte, comme le ray de lumière de l'évangile de Jean qui fend l'obscurité, comme la descente d'un Dieu dans un Dieu tout-puissant, dans un petit enfant tout à fait faible. Toutes ces choses-là nous racontent une horizontale de transmission, une unité éprouvée et partagée. Pour terminer. Amen.